Alors, merci d'être là. Nous allons juste voir aujourd'hui, on voit un thème qui est extrêmement intéressant. Les choses que nous allons discuter et parler aujourd'hui vont vous aider sans doute à parler avec vos amis d'une manière différente que d'habitude. Juste une chose à comprendre avant, c'est que ce que nous sommes en train de faire dans cette classe, ça vous donne un autre outil à utiliser quand vous êtes en train de parler avec les autres. Vous avez votre témoignage personnel de ce que Dieu fait dans votre vie. Et ça c'est bien et important. Mais là, nous sommes quand même dans une idée que oh, ça marche pour toi, mais pour moi, c'est autrement. Okay? Donc, quand vous êtes en face de quelqu'un qui dit à un moment, par exemple, qui dit, bah, moi, je sais que le livre de maman est juste parce que j'ai quelque chose dans mon cœur qui s'est passé quand j'étais baptisé, etc. On est tous les deux en train de partager un témoignage personnel et les gens y voient le même poids pour les deux. Okay? Il y a des gens, vous allez les introduire, par exemple, aux enseignements de Jésus et ils vont tomber amoureux de ses enseignements de Jésus, de sa manière de parler, de comment traiter les ennemis, sa manière d'être avec des personnes dépourvues, le fait qu'il dit le plus grand dans le royaume, c'est le plus petit. Des choses comme cela, il y a des gens qui seront fascinés par cela. Il y a d'autres qui seront touchés parce que vous avez appris à les servir et à les aimer. Vous allez être là pendant les moments de douleur. Vous allez soutenir des gens qui sont faibles. Vous allez donner de votre temps pour les autres et donc ils seront touchés aussi par votre service. Il y en a d'autres qui auront besoin d'avoir quelqu'un qui parle de leur raison, leur manière de vivre et le sens de la vie. Et avec ces personnes qui ont quand même une idée assez logique de comment les choses doivent être, le livre de Timothy Keller est très important et aide beaucoup. Parce que ce livre dit que finalement, nous comme chrétiens, nous avons une raison de croire en Dieu qui est beaucoup plus valable que toutes les raisons pour ne pas croire en Dieu. Simplement pour dire que celui qui dit « je ne crois pas en Dieu » et « je sois que nous sommes le produit de hasard » a très peu de base pour vivre sa vie. Et on verra cela. Pendant que le chrétien qui dit « non, nous sommes créés par Dieu, nous sommes sa création à vivre avec dignité », nous avons donc il y a une logique là-dedans qui fait que nous progressons dans notre vie et nous donnons un sens à tout parce que Dieu a donné un sens à tout. Et j'aimerais juste réviser cela avec vous parce que première chose que nous voyons, c'est qu'il y a une pensée matérialiste. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? C'est le cas que tout, il n'y a pas de surnaturel. Tout ce qui existe aujourd'hui, c'est par des causes naturelles. C'est-à-dire, il y a cause et effet, mais il n'y a pas de Dieu, tout est naturel. Et donc, nous sommes des êtres d'énergie, nous sommes le résultat du hasard et des forces de la nature. Et nous existons simplement parce que nous existons. Notre raison d'être, c'est d'être. On est là parce que on est là. Le résultat, numéro 3 là, le résultat est que chacun doit trouver en lui-même son propre sens de vie, propre raison d'être. Et ce monde est sans un sens, et vous devez chercher un sens, mais finalement, votre sens à la vie n'a aucun sens. C'est cela. Chacun doit trouver son sens dans une vie qui n'a pas de sens, parce que on est le fruit du hasard. Et puis, dernière chose, puisque nous sommes le fruit du hasard, la vie n'a pas de sens, nous ne pouvons pas imposer notre moralité, ni notre valeur, ni nos croyances sur les autres, car chacun a le droit à sa propre moralité. Chaque vérité vaut la même chose qu'une autre vérité. Une vérité n'est pas meilleure qu'une autre. Si nous sommes le fruit du hasard, s'il n'y a pas de sens à la vie, s'il n'y a pas de standard qui est imprimé dans l'âme de l'être humain, donc toutes les valeurs sont égales, ta morale c'est ta morale, ta vie c'est ta vie, ma vie c'est ma vie, on va comme cela. Tout est le produit donc d'une assimilation accidentelle d'atomes. Vous comprenez? C'est ça. Que celui qui ne croit pas en Dieu, c'est cela qui croit. Que tout est une assimilation accidentelle d'atomes. Il n'y a pas de force surnaturelle qui guide. Nous sommes donc des accidents, des heureux élus, Car nous sommes les mieux adaptés pour survivre et pour passer notre génome à la génération suivante. Vous existez simplement pour passer votre génome à la génération suivante, pour pouvoir exister, pour donner à la génération suivante, etc. Okay? C'est cela, la pensée de ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie et qui ne croient pas que nous sommes une création. C'est la conclusion logique de ces différentes choses. Bon, vous ne me croyez pas. Sartre, la nausée. Okay? Ceux qui ont lu Sartre, vous avez eu peut-être de la nausée en le faisant, mais ça, c'est un livre qu'il écrit sur le sens de la vie. Regardez ce qu'il a écrit. Et c'était vrai, je m'en étais déjà rendu compte, je n'avais pas le droit d'exister. J'étais apparu par hasard. J'existais comme une pierre, comme une plante, comme un microbe. Je ne sentais rien qu'un bourdonnement sans conséquence. C'est ce que je pense, lui dis-je, que nous voilà tous autant que nous sommes à manger et à boire pour conserver notre précieuse existence et qu'il n'y a rien, rien, aucune raison d'exister. Si Dieu n'est pas, on est là, pourquoi? C'est le hasard. C'est l'évolution. C'est parce que nous sommes des êtres plus évolués que d'autres. Et Sartre avait l'honnêteté intellectuelle d'admettre que si nous sommes apparus par hasard, alors il n'y a pas de raison d'exister, sauf d'exister. Et de donner nos ADN à des générations futures. Et la moralité, la vérité et les droits de l'homme ne sont qu'une illusion, au pire, et au mieux, des conventions collectives qu'on a mis ensemble pour pouvoir vivre ensemble. La philosophie matérialiste veut tout expliquer, même ce qui est le plus intime pour l'être humain, c'est-à-dire la beauté, le sens de la vie, le sens de l'identité et l'amour. La pensée matérialiste veut dire que les pensées que vous avez, c'est simplement une suite logique de l'évolution. Je vous montre cela. Très intéressant. J'ai jamais les titres. Les titres ont disparu. Donc là, il dit les désirs. Si vous les regardez là, vous voyez qu'il y a un titre, mais là, il n'y en a pas. Les désirs. Derrière le désir, on trouve une raison évolutionnaire. Free-floating, c'est-à-dire sans être attaché, ça change tout le temps. Okay? Free-floating, raison validée par la sélection naturelle. Tout ce que nous apprécions, le sucre, notre sexualité, l'argent, aussi bien que la musique, l'amour ou la religion, nous apprécions pour certaines raisons. Derrière elles, et distinctes d'elles, se trouvent des raisons évolutionnistes avalisées par la sélection naturelle. Donc, si vous aimez, c'est parce que vous avez évolué et donc vos cellules, votre ADN, vos neurones sont créés pour aimer et de réagir à des stimulus. Il n'y a pas de choix d'aimer, il n'y a pas une raison d'être derrière cela, c'est juste on aime pour que l'espèce puisse continuer à vivre. Okay? Pourquoi on a d'autres sentiments et d'autres désirs? C'est juste pour que l'espèce continue à exister. Alors, intéressant, n'est-ce pas? Parce que, regardant ce qui se passe à travers toutes les générations, depuis le début, nous voyons des gens qui cherchent Dieu génération après génération. Depuis toujours, on est d'accord. On regarde les peuples anciens et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient Dieu. Ils cherchaient autre chose que le matériel. Et donc, le matériel, la philosophie matérialiste doit expliquer pourquoi les hommes cherchent depuis toujours, toujours à connaître cette puissance qui est Dieu ou les dieux ou de se connaître le surnaturel. Pourquoi les hommes depuis toujours adorent? Pourquoi les hommes depuis toujours prient? Pourquoi toutes ces choses? Et vous savez quelle est la raison, n'est-ce pas? Pourquoi les hommes font cela? Bon, c'est pour des raisons évolutionnistes. Voilà. Tous les théoriciens de l'évolution sont d'accord pour dire que notre capacité à croire en Dieu est inscrite dans notre physiologie parce qu'elle est directement ou indirectement associée aux caractéristiques qui ont contribué à l'adaptation de nos ancêtres à leur environnement. C'est-à-dire, on a cru en un Dieu ou plusieurs dieux parce que cela a permis à une génération à survivre pour passer son génome à la génération suivante. Il y a quelque chose en croire en Dieu qui fait qu'on a été plus adapté à vivre et à continuer. Et c'était la raison pour laquelle nous croyons, c'est parce que, pas parce qu'il y a un Dieu, mais parce que croire en Dieu, a rendu cette génération plus capable à survivre pour donner son génome à la génération suivante. C'est juste une question de facilité, de rendre les choses plus faciles et de continuer à survivre. Assez intéressant, n'est-ce pas? Qu'on va dire, bon, croire en Dieu, c'est juste une manière de survivre et d'évoluer, de donner son génome à la génération suivante. Par contre, pensez à ceci. Se sentir seul, imaginons que vous vous sentez seul, cela exprime que vous êtes créé pour une relation. On est d'accord. On n'aurait pas de sentiment de solitude si on n'était pas créé pour avoir des relations les uns avec les autres. Avoir faim implique que quelque part, il y a de la nourriture. Okay. Le besoin exprime qu'il y a quelque chose qui est là pour nourrir l'être humain. Le désir sexuel est un signe qu'il y a un acte sexuel. Okay. Et puis aussi la fatigue indique que le sommeil existe. C'est différentes choses. Est-ce possible que notre soif de Dieu est une indication, un indice qu'il y a un Dieu qui existe, comme la faim dit qu'il y a de la nourriture, comme le soif dit qu'il y a une liquide à boire, que l'isolement ou la solitude nous parle qu'il y a des relations humaines qui sont là. Bref, c'est une possibilité qui est là. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez dire à vos amis. Okay? C'est de dire que le soif de l'être humain, de connaître le surnaturel ou de connaître le Dieu, est quand même un indice qu'il y a un Dieu qui existe. Ce désir de connaître la transcendance de Dieu est en chaque être humain. Et n'est pas simplement expliqué par des raisons évolutionnistes, mais aussi parce que il y a un vrai soif de quelqu'un qui existe. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir faim de manger un steak, et cela ne veut pas dire que cet après-midi, vous allez manger un steak. Mais cela indique qu'il y a la nourriture qui existe quand on a faim. Bon, la réponse à l'objection de l'évolutionniste, c'est qu'il ne doit pas croire en Dieu pour savoir que ces expressions donc existent. C'est-à-dire, il dit qu'il y a une cause naturelle. Croire qu'il y a un Dieu permet à l'être humain d'évoluer. Et un jour, quand on n'aura plus besoin de croire en Dieu, alors notre génome va éliminer cette croyance. Parce que tout est gouverné par notre génome. Tout est gouverné par notre ADN. Et même un matérialiste pur dit qu'on ne pense pas, on ne fait que répondre à des stimulus. Le grand problème, c'est si la croyance en Dieu est seulement quelque chose qui nous aide à aller à la prochaine direction et de donner notre génome aux autres, ça veut dire que toute croyance est une croyance qui est là simplement pour donner notre génome à la génération suivante. Et même de croire à une théorie, par exemple la théorie complète du matérialiste et de l'évolutionniste, même de croire à cela, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on croit à cela simplement pour pouvoir donner notre génome à la génération suivante? Cette théorie, croire à cela, facilite cette existence que nous avons sur la Terre. C'est très intéressant parce que Dawkins, qui est un grand athée qui a écrit beaucoup aux États-Unis et en Angleterre, il a dit « L'évolution s'intéresse uniquement à la sauvegarde du comportement d'adaptation, pas à la croyance véritable. Okay? » Alors, pour un matérialiste pur, si la chose est vraie ou pas, c'est pas important. La seule chose qui est importante, c'est quoi? C'est de survivre. Vous comprenez? Et donc, c'est d'aller jusqu'à la prochaine. Donc, on peut dire, ouais, on a cru en Dieu simplement parce que ça a aidé avec l'évolution de l'être humain. Vous comprenez? Mais la même chose avec une philosophie comme le matérialisme ou comme l'évolutionniste, c'est la même chose. Qui sait si on ne croit à cela simplement parce que nos génomes nous indiquent le pas, le chemin à suivre et qui va nous aider à ce niveau-là. Même Darwin a dit ceci. Le doute horrible jaillit toujours quant à savoir si les convictions du cerveau de l'homme, cerveau qui s'est développé à partir de celui d'animaux inférieurs, ont quelque valeur ou sont un temps soit peu fiable. Donc, l'idée qu'il a dit, c'est que, et il a dit que c'est quelque chose qui le tourmentait, c'est que, est-ce que cette raison qui existe, parce que nous sommes des êtres évolués, des animaux inférieurs, est-ce que ce que nous croyons être vrai et le raisonnement que nous avons est vraiment vrai ou c'est simplement le résultat de notre évolution? Ah, je trouve cela intéressant. Et donc, regardons un peu l'évolution et la religion. Ici, c'est Leon Weisslayer. Ce qu'il dit, c'est que il y a une carte, une maison de cartes. Vous savez, une maison de cartes. Vous prenez une carte et il y a tout qui tombe. Il dit que la logique qui est là, au niveau de la religion ne compte pas parce que c'était là pour nous aider à évoluer. Mais la logique de l'évolution, la philosophie matérialiste nous aide à progresser. Il dit que c'est vraiment une maison de cartes. Il dit, mais si la raison est un produit de la sélection naturelle, jusqu'à quel point pouvons-nous alors avoir confiance en un argument rationnel en faveur de la sélection naturelle? Le pouvoir de la raison est dû à son indépendance et à rien d'autre. Bon, lui, il est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, okay? Il m'a fallu le lire plusieurs fois, mais il dit il y a quelque chose qui est la raison, quelque chose qui est vérité, quelque chose qui est sûr, qui existe en dehors de l'être humain. C'est ça qu'il dit. La raison doit être indépendante de tout système d'évolution. Par contre, Darwin et Dawkins ont dit que il est fort probable que ce que nous croyons maintenant n'a rien à voir avec est-ce vrai ou pas. C'est vraiment une question, est-ce que cela nous aide à avancer? Alors, ça c'est très intéressant parce que c'est pas si vous commencez à voir ceci, mais il y a un truc que nous entendons tout le temps et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui existe chez l'être humain. C'est le bien et le mal. C'est le bien et le mal. Parce que si vraiment nous ne sommes que le résultat d'une évolution matérialiste, okay, depuis toujours et depuis, disons, depuis le début, alors il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a pas de bien ou de mal. Okay. Ça n'existe pas, ce sont juste des conventions sociales qui nous permettent d'exister ensemble. C'est ça, c'est que ça. Et assez intéressant, parce que là, vous avez une vraie clé quand vous parlez avec vos amis, parce que vos amis croient à quoi? Au bien et au mal. Ils croient à cela. Le plus grand athée, okay, vous êtes avec lui, il va suivre quand même les règles, la plupart du temps. Okay? Il va quand même dire, ah ouais, l'amour, c'est quelque chose de beau. Okay? Oh, il faut chercher la paix, etc. Bon, cela, on va voir juste ici. Le chrétien croit que le bien et le mal existent en dehors de nous-mêmes. C'est ça la différence. Pendant que l'évolutionniste matérialiste croit que le bien et le mal existent à l'intérieur et chacun doit découvrir chez lui ses propres valeurs. Okay? Et celui qui ne croit pas en Dieu, donc, il a un problème parce qu'il cherche en lui, mais bon, vous verrez quel est le problème. Voilà, je vous montre. Pour le bien et le mal, pour un matérialiste, donc évolutionniste, il dit « le bien et le mal n'existent pas. Ce ne sont que des conventions sociales, des mots qu'on utilise pour désigner ce qu'une culture particulière approuve ou désapprouve. » Donc, si vous avez eu l'occasion de par exemple, aller regarder les vidéos de Max avec ce qu'il a donné à Genève, les conférences, il parle de ces Esquimaux qui ont mis leurs personnes âgées sur des icebergs et les éloignent pour qu'ils meurent de faim quand ils ne servent plus à rien. Okay? Ça serait une convention sociale tout à fait acceptable dans une société d'Esquimaux. Et qui sommes-nous d'aller et de secourir ces personnes comme cela? Vous êtes quelqu'un, vous travaillez avec des musulmans dans certaines parties de l'Afrique, et il y a une mutilation, donc, des organes sexuels des femmes. Qui êtes-vous de juger ces choses-là? Parce que ça fait partie de leur société, et leurs valeurs sont aussi bonnes que les vôtres. Pourquoi? Parce que les valeurs existent à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur de nous. Des enfants handicapés sont nés, qu'est-ce qu'on va faire? On va les isoler et puis on va les tuer gentiment. Okay? On va les éliminer. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Ça, c'est une société qui décide de faire de cette manière. Et donc, leurs valeurs sont aussi bonnes que les nôtres. Regardez ce que nous avons ici. La position que tient l'évolutionniste moderne est que la moralité est une adaptation biologique autant que le sont les mains, les pieds et les dents. J'apprécie que lorsque quelqu'un dit « aime ton prochain comme toi-même », il pense qu'il se réfère à ce qui est au-dessus et au-delà de soi. Néanmoins, une telle référence est véritablement dénuée de fondement. La moralité n'est qu'une aide à la survie et à la reproduction. Et toute autre signification plus profonde est illusoire. Donc ça, c'est une citation de Michael Ruse, qui est « Evolutionary Theory and Christian Ethics ». Lui, il dit, bon, on a des valeurs juste parce que ça nous aide à passer à la prochaine direction, okay? À la génération. Et donc, nous avons des choses comme ceci, et ça, c'est ce que vous entendez tout le temps, n'est-ce pas? Personne ne devrait imposer sa position morale aux autres, car chacun a le droit de trouver en lui la vérité. Ça, vous entendez tout le temps. Qui vit comme cela? Personne! Personne ne vit cela. Parce que si cette personne vous invite chez lui, okay? Et pendant que lui est en train de préparer quelque chose, vous prenez, c'est pas son téléphone, vous mettez dans la poche et vous le volez. Okay? Vous vivez selon votre moralité. Est-ce que lui, il est d'accord? Non, il n'est pas d'accord. Il n'est pas. Tout le monde doit vivre avec ces conventions sociales qui sont là. C'est quelque chose qui existe en dehors de nous-mêmes et pas simplement à l'intérieur de nous-mêmes. En même temps. Il y a des valeurs morales et il y a des obligations morales. Okay? Il y a des valeurs morales et il y a des obligations. Non seulement cela, j'ai dit, je dois vivre comme cela, mais je dis aussi quoi? Les autres doivent vivre comme cela. Alors, je dis pas en toutes choses, n'est-ce pas? Il y en a parmi vous que si c'est un peu rouge là, vous regardez à gauche, à droite et vous avancez. Okay? Il y en a d'autres qui vont rester là. Même si le feu est en panne, jusqu'à ce que ça devienne vert, et à ce moment-là que vous allez passer. Je dis que quand même, il y a des variantes qui existent. Mais la plupart de nous, nous n'allons pas brûler les feux rouges. La plupart d'entre nous. Donc, voici la morale. Ça, c'est Christian Smith. Quel beau nom, hein, Christian Smith. La morale est une tentative de comprendre ce qui est bien et mal, juste et injuste. Elle n'est pas établie par nos propres désirs ou préférences réelles, mais existe plutôt, croyons-nous, en dehors d'eux. Elle fournit ainsi les normes par lesquelles nos désirs et nos préférences peuvent eux-mêmes être jugés. Ça, c'est la pensée matérialiste ou c'est la pensée de quelqu'un qui croit en Dieu? Je vous laisse juste... Pardon? Quelqu'un qui croit. N'est-ce pas? Parce qu'il dit, c'est quelque chose qui existe, des standards qui existent en dehors de nous-mêmes, qui nous donnent quand même la possibilité de comprendre notre univers. Alors, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux quand même vous raconter ce qui m'est passé il y a 2 semaines. Grâce à ce que nous vivons avec ce livre, et c'est pour ça que je vous encourage vraiment de creuser dans ce livre et tout, parce que vous aurez plein d'occasions qui se lèvent juste pour poser les bonnes questions. Donc, je suis dans un cours, il y a 16 personnes qui sont en train d'être avoir une formation de coach professionnel. Okay? Il y a les standards qui s'appellent ICF, je ne vous parle pas de cela, mais les deux formateurs disent ceci, toute valeur est relative. Toute valeur est relative. Okay? Voilà, donc ils continuent à expliquer dans le coaching, tout valeur. Moi, je lève la main, je dis, écoutez, Est-ce possible qu'il y a des valeurs qui sont communes à tous? Parce qu'il y a quelque chose dans l'être humain, quelque chose dans l'être humain qui dit qu'il y a des valeurs que tous doivent respecter. Qu'il y a quelque chose en nous, dans l'être humain, qui dit non, nous vivons différemment des animaux parce qu'il y a quelque chose de valeur que nous avons que les autres n'ont pas. La réponse était non. Je dis ok. Est-ce que tout le monde est d'accord, les 16? Oui, ouais, il n'y a pas de valeur commune, etc. Ok? Je dis, oh, donc, il n'y a pas de valeur universelle? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de bien et de mal? Non, il n'y en a pas de bien et de mal. Ok? Il n'y a pas de droits de l'homme? Ah oui, il y a des droits de l'homme. Ok, bien. Donc, vous dites que chacun a ses propres valeurs et on ne peut pas dire que cette valeur est une bonne ou une mauvaise. Non, on ne peut pas. Brady, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que pourrait être une valeur universelle? Alors, assez malin, j'ai dit l'égalité de la femme. Pourquoi pas? Qui peut aller contre ça de nos jours, hein? Et puis, j'ai dit, est-ce que l'égalité de la femme est une valeur universelle? Est un droit de... Et la réponse était non. Il n'y a pas de valeur universelle, il n'y a pas de valeur humaine. Je dis, ok, quand vous dites il n'y a pas de valeur humaine, vous voulez dire qu'il n'y a pas de valeur commune à tous les êtres humains. Là, vous voyez, il y a 16 personnes. Je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train de clarifier la pensée des gens. Et la fille Kim, elle dit, non, il n'y en a pas. Ok, je dis merci beaucoup. Et puis on continue la discussion et on rompt, hein, en demi-cercle comme ça. Non, sans blague, hein. Deux phrases plus tard, elle dit, les valeurs humaines nous enseignent que... Elle me regarde. Et puis, quatre phrases, je ne suis pas en train de mentir. Elle dit, les valeurs universelles sont intéressantes. Personne qui ne peut vivre, quelqu'un qui est humain, doit vivre selon ce qui est inscrit en eux. Mais inscrit par qui? Par le hasard, par des atomes qui ont accidentellement été mis ensemble. Non, nous savons inscrit par qui? Inscrit par qui? Par Dieu. Okay. Et nous le savons. Et je crois que parfois, juste de pousser un tout petit peu les gens à une conclusion logique les aide à voir qu'il y a une contradiction qui est là. Okay. Et ça donne juste la possibilité plus tard peut-être de parler de ces différentes choses. C'est cela. C'est pas de gagner, même si vous savez pas grand chose. Je sais pas grand chose là-dessus. Mais si je sais deux ou trois choses, je peux quand même poser des bonnes questions qui permettent les gens à aller jusqu'au bout de leur pensée. Jusqu'au bout de leur pensée. OK. Donc, plein de questions qui arrivent. OK? Alors, si ce que nous croyons sont des valeurs bonnes, qui ne sont pas bonnes, mais qui existent quand même, et que ça, tout cela, c'est le résultat de l'évolution. Alors, que faire avec l'altruisme? Que faire? Alors, voici la réponse. Les personnes altruistes, celles qui agissent avec générosité et de la manière coopérative, ont survécu en plus grand nombre que les personnes égoïstes et cruelles. Les gènes altruistes nous ont donc été transmis et, à présent, la grande majorité d'entre nous a le sentiment qu'il est juste d'avoir un comportement généreux. C'est extraordinaire, hein? OK? Sauf, quoi? Ça n'a zéro sens à mes yeux. OK? Pour moi, ça, c'est... Moi, je pense, dans l'optique évolutionniste, cependant, la réaction opposée, à savoir l'hostilité à l'égard de toutes les personnes extérieures à notre groupe, OK, devrait tout autant être considérée comme morale et juste. Donc, je pense à mon groupe et pas aux autres. Donc, aujourd'hui, vous regardez la compassion pour l'étranger, la compassion pour les personnes âgées, les démunis, les sans-emploi, c'est quelque chose qui est enseigné partout, n'est-ce pas? Bon, si c'était le survécu du plus fort et que le grand peut écraser le petit, alors il y a un problème là. Soit on va suivre une pensée qui est évolutionniste, soit on doit dire, écoute, il y a un problème et nous devons en parler. Bref, ça va jusqu'à là? Vous êtes présents? Je trouve cela si vous avez lu le livre, il n'y a rien de nouveau ici, mais juste certaines choses là. Donc, il dit les droits de l'homme. Okay? D'où viennent donc les droits de l'homme? Voilà, il y a trois possibilités qui sont dans le livre. Première, de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, avec sa dignité. Et donc, le droit de l'homme vient de cela. Okay? C'est extraordinaire de savoir cela. Quand vous allez dans un EMS et vous êtes avec des personnes qui ne peuvent plus rien produire, est-ce qu'ils ont de la dignité et de l'importance? Ben oui. Au niveau de l'évolution, non, zéro. Ils peuvent rien donner. Mais au niveau de dignité de Dieu qu'il a imprimé sur les cœurs des hommes, ça donne une importance à ces personnes. Un enfant handicapé depuis sa naissance qui va jamais produire quoi que ce soit, est-ce que cet enfant a de la dignité aux yeux de Dieu? Ben oui, oui. Mais dans un monde évolutionniste qui dit, il y a rien. On le fait parce qu'il y a des conventions sociales maintenant. Et dans une autre société, on pourrait faire différemment. Deuxième, c'est la nature. Quelques actions sont appropriées et d'autres pas. Donc, ça va nous aider à que les plus forts vivent. Et puis, dernière, les droits de l'homme sont une création des hommes qui écrivent les lois. C'est-à-dire la majorité. Okay? Quand la majorité dit, alors ça sera comme cela. Sauf dans un pays comme l'Allemagne nazie, okay, qu'on apprend à détester des gens à cause de leur race, okay, à cause de leur les générations précédentes, etc. Alors là, nous voyons que nous avons des problèmes. Selon ce point de vue, donc, disons, il y a ce qu'on appelle le relativisme culturel. Selon ce point de vue, nous ne disposons d'aucun fondement nous permettant de décréter avec objectivité que la moralité de telle culture est meilleure que celle de telle autre. Assez important ceci, parce que c'est une réaction, je crois, au colonialisme. Okay? Je crois que c'est vraiment cela, que on va dans un pays, on impose des manières de faire et tout, et on fait cela parce que c'est la manière de faire. Mais la réaction à cela, c'est qu'on appelle le relativisme culturel. C'est qu'il n'y a pas une culture qui a des choses meilleures qu'une autre culture. Et c'est assez intéressant parce que qu'est-ce qui se passe? L'anthropologue, quand il va dans une autre société, et spécialement les femmes, quand elle va dans une autre société, dans une autre culture, et il voit que les femmes, par exemple, sont maltraitées, qu'est-ce qu'elles font? Elles enseignent les femmes quels sont les droits des femmes. Elles essaient de transformer la société. Okay? Arthur Leff, qui est professeur de droit à Yale, bon, il est décédé maintenant, il dit « soit Dieu existe, soit il n'existe pas. Mais s'il n'existe pas, rien ni personne ne prendra sa place. » C'est-à-dire, nous ne pouvons pas juger les autres cultures. Et donc, pour nos amis, qu'est-ce que nous pouvons imaginer faire? Donc, on peut lui poser la question. Si vous soutenez donc cette vision matérialiste du monde et continuez cependant de déclarer que certaines choses sont bonnes et d'autres mauvaises, par exemple, égalité de la femme, génocide, racisme, etc. Donc, j'espère que vous remarquez la profonde discordance entre le monde conçu par votre intelligence et le monde réel, incluant Dieu, dont votre cœur reconnaît l'existence. Okay. Non, juste pour vous dire ceci, si une prémisse qu'il n'y a pas de Dieu conduit à une conclusion que vous savez fausse, okay, si vous savez s'il n'y a pas de Dieu et tout est là à cause de l'évolution et du matérialisme, et cela mène à toutes les valeurs sont les mêmes, il n'y a pas une chose qui est meilleure qu'une autre, tout cela, qu'il n'y a pas de fondement, donc ça peut dire que votre prémisse est fausse, parce que ça donne un fruit que vous désirez pas. Okay? Donc, il peut être normal dans certaines cultures de lancer de bombes. Par exemple, si une prémisse qu'il n'y a pas de Dieu conduit à une conclusion que vous savez fausse, il peut être normal dans certaines cultures de lancer des bombes à napalm sur les bébés. Pourquoi ne pas changer de prémisse? Si c'est la survie du plus fort, si c'est le puissant contre le faible, si c'est juste le hasard, si la vie n'a pas de sens, alors, et vous savez quand même qu'il ne faut pas bombarder des enfants, vous le savez, alors il y a un problème là. la prémisse ne correspond pas au fruit que vous désirez. Alors, et tout le monde va dire, mais non. Non, non, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est ce que nous sommes en train de dire, c'est que celui qui intellectuellement est intègre dans sa pensée, que va-t-il faire? Il va dire, oui, il y a un problème. Et il va essayer de résoudre ce problème. Mais une des choses qu'on peut dire, c'est que s'il y a un Dieu qui existe, et il y a des valeurs qui existent en dehors de nous, qui sont inscrites en nous, alors ça pourrait quand même expliquer pas mal de choses. Juste deux choses pour la fin. Donc pour nos amis, Lev dit encore, donc c'est le professeur à Yale, en l'état naturel des choses, tout est possible. Néanmoins, lancer des bombes, bon ça on a déjà vu, acheter et vendre des êtres humains et pervers, le mal est bien quelque chose qui existe, tous ensemble à présent, qu'il a dit Dieu. Aide-nous. Okay? Qui a dit que c'est pas le cas? Donc voilà. Ça c'est Nietzsche. Nietzsche dit, seule une personne religieuse peut parler sérieusement du sacré. Nous pouvons dire que tous les êtres humains ont une valeur inestimable, qu'ils sont une fin en soi, qu'ils méritent un respect inconditionnel, qu'ils possèdent des droits inaliénables et bien sûr, il possède une dignité inaliénable. Nietzsche a dit cela, que celui qui croit en Dieu, il sait ce que c'est que le sacré. Il a la possibilité de faire ça. Une personne sans religion, c'est-à-dire sans une croyance dans un Dieu supérieur à nous-mêmes, il n'arrive pas à dire cela. Et vous savez quel était le résultat de Nietzsche? Vous êtes au courant. C'était le Superman. Okay. C'était la race élite. C'était les puissants qui écrasent les faibles. Bon, tout cela s'est passé avant l'Allemagne nazie, okay, qui cherchait effectivement ces différentes choses. Donc voilà. Vous avez tout écouté. Si je finis avec deux ou trois choses... Moi, je finirai juste avec ceci. C'est aider les gens à aller jusqu'au bout de leur pensée. Donc, vraiment aider. Donc, pourquoi vous avez cette croyance? Pourquoi vous croyez le bien et le mal quand vous dites qu'il n'y a pas de bien et mal? Pourquoi vous dites que toutes les valeurs sont relatives, mais en réalité, vous savez qu'il y a des valeurs qui sont relatives? Posez des questions à ce niveau-là. Vraiment poser ces questions. Aussi, quand on dit, comment est-ce qu'on explique la croyance en Dieu à travers les siècles? Quand ils disent c'est pour des raisons évolutionnistes, donc là de parler de le désir, disons se sentir seul, veut dire qu'il y a des relations, avoir faim veut dire qu'il y a de la nourriture à manger, etc. Vous pouvez regarder ces différentes choses ensemble. Et puis juste pour dire aussi c'est cette recherche aussi de partage, ce qui est important pour vous, c'est de dire est-ce qu'il y a quelque chose au centre d'être un être humain qui appartient à lui, vraiment qui appartient à lui. Et là, presque tout le monde va dire oui. Tout le monde va dire oui. Et d'où cela vient? Des causes naturelles? Ou est-ce que ça peut venir de quelqu'un d'autre? Ça va? Oui. Oui. OK. Donc la question pour la c'est juste, on commence les discussions, mais on va jamais jusqu'au bout avec ces personnes, c'est-à-dire le qui est là. Et je crois que ça c'est vrai. Le but c'est pas d'aller au bout de cette conversation. D'habitude ces gens nous sommes à table et ils disent ouais vous savez que il y a pas de valeur commune. Ah oui, il y a aucune valeur commune. Non il y en a pas. Donc on peut pas dire qu'il y a quelque chose dans l'être humain. Oh non il y a pas. Ok, je peux juste dire un truc. Est-ce que vous êtes contre l'esclavage? Pourquoi? Est-ce que tout le monde doit être contre l'esclavage? Oui, il devrait être. Ça, c'est l'obligation morale qui est là. Et donc, OK, mais ça vient d'où? Parce que vous venez de dire que toutes les valeurs sont relatives. Okay? Donc, c'est juste là qu'on commence à dire, et là, vous pouvez dire, bon, moi, je crois qu'il y a quelque chose dans l'être humain qui était donné par Dieu, qui fait en sorte que, oui, l'esclavage, on sait qu'il y a quelque chose qui parle. Ouais, mais vous savez, les États-Unis au 18e, 19e siècle, et oui, et c'était condamné. Et pourquoi c'était condamné? C'était condamné par des gens qui croyaient en Dieu, qui ont dit, il faut pas traiter un être humain comme cela. Si c'était juste l'évolution, on dirait, hey, si les lois n'arrivent pas à se libérer, ça c'est le problème. Ça c'est l'évolution. Okay? Donc vous posez ça. Et puis ça peut travailler parce que peut-être plus tard, ils vont rencontrer François. Et François, il va poser le même type de questions, ou peut-être il y aura un service qui est rendu au nom de Jésus. Okay? Ou peut-être il y aura un enseignement de Jésus qu'ils entendent. Toutes ces choses travaillent ensemble pour cela. Donc, tu as raison. Tu vas pas aller de A à Z avec un. Donc, on essaie de poser les bonnes questions. Et on se trompe souvent, mais on essaie. OK, qui définit ce que c'est que la bienveillance? Okay? Vous dites que c'est important d'avoir la bienveillance. Est-ce que vraiment tous les peuples, tous les gens devraient avoir ça? Tu poses la question comme cela. Et puis, s'ils disent oui, d'où vient cette croyance? Et puis, c'est là. Okay. Donc, c'est une valeur commune à tous. OK, je croyais qu'on avait dit que toute valeur est relative. Ah, donc toute valeur n'est pas relative. Oui, toute valeur. Donc là, on essaie de montrer comme cela. Okay. Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a des superstitions qui existent. Okay. Mais il y a aussi, en même temps, un Dieu qui est créateur qui existe là. Et qu'est-ce que cela signifie au niveau, s'il y a un Dieu créateur, s'il n'y en a pas? Donc, si tu me demandes d'aller au bout de ma pensée avec un Dieu créateur, je te demande aussi de faire la même chose. C'est-à-dire, si il n'y a, la seule raison pour laquelle on existe, c'est à travers un enchaînement de causes et effets matérialistes, okay? Et quand on lit la littérature d'un athée aujourd'hui, le matérialisme explique tout. Il explique pourquoi tu t'es marié avec ta femme. Okay? Il explique tout. Okay? Et quand tu vois cela, donc tu dois le dire, okay, aller jusqu'au bout de cela. Et puis de la même façon, j'irai au bout de ma pensée. Okay? On admet les choses. Je crois que c'est comme cela qu'il faut, il faut faire. Par contre, donc attention quand même. Mais ils vont dire, ouais, bah vous croyez que le monde n'a que 6000 ans, etc. Toutes ces différentes choses comme cela. Moi, j'évite cela. Ce que j'ai dit, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a un créateur. Et voici ce que cela signifie pour moi.